On va poursuivre notre série aussi sur le thème des quatre aspects de l'œuvre de Jésus. On a vu la semaine dernière Jésus, le roi, avec l'évangile de Matthieu. Et on va poursuivre, on va relire ce verset dans Ézéchiel chapitre 1, verset 10. Ézéchiel chapitre 1, verset 10. Où ce prophète a une vision où il voit des êtres qui manifestement représentent le Seigneur. Un de leurs visages ressemblait à celui des hommes, mais tous les quatre avaient aussi une face de lion à droite. On a vu donc le lion, c'était Matthieu, Jésus le roi. Une face de taureau à gauche et une face d'aigle. Et nous avions vu qu'on retrouvait ça dans l'Apocalypse. Jean avait une vision identique. Quatre aspects de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ, comme les quatre évangiles. Donc il y a l'homme, qui est le sommet de la création de Dieu, on le verra ultérieurement. Et puis il y a trois animaux parmi les plus nobles et les plus puissants. Le lion, le roi des animaux. Et aujourd'hui, donc le taureau. On va voir le taureau, alors selon les traductions, ça peut être le veau ou le bœuf aussi, mais voilà, qui va nous parler de ce roi qui est aussi serviteur. Voilà. L'accent est mis sur le serviteur ici avec ce taureau qui est une image de Christ. Et d'ailleurs, on va aller dans l'évangile de Marc tout de suite pour lire le verset central. Quel est le verset central de l'évangile de Marc? Est-ce que quelqu'un le connaît? Chaque évangile a un verset qui... Il résume. Okay. Verset le plus important. Si je vous dis que Jésus est venu comme un serviteur. Ah oui. Ah. Marc 10, 45. Allez, Marc 10, 45. Regardez ce verset. Ce verset qui nous parle de cet abaissement du Seigneur Jésus. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi comme un roi, il aurait pu, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup, pour plusieurs. Voilà. Il est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Ça évoque donc deux choses ici, le service et le sacrifice. Comme le taureau d'ailleurs, comme le taureau. Le taureau était un animal qui était utilisé pour la reproduction, mais aussi pour les travaux des champs, physiques, très forts, mais aussi pour les sacrifices. Souvent, dans les sacrifices, c'était des taureaux qui étaient offerts, c'était des sacrifices coûteux d'ailleurs, offrir un taureau, vous vous rendez compte? Eh bien, Jésus est venu pour donner sa vie, il est dit, accomplissant ainsi tous les sacrifices de la loi. Jésus est à la fois l'holocauste, le sacrifice d'expiation, de culpabilité, de reconnaissance, d'action de grâce, l'offrande, etc. Tous les sacrifices sont accomplis en Jésus-Christ. Et ce serviteur est annoncé par le prophète Ésaïe dans plusieurs chapitres, on va en voir juste deux. Le chapitre 42, verset 1 d'Ésaïe, où on voit que Jésus est déjà annoncé, non pas comme le roi ici, mais comme le serviteur, celui qui vient pour servir. Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, celui que j'ai choisi et qui a toute mon approbation. J'ai mis mon esprit sur lui, il révélera le droit aux nations. Et ça continue. Donc ça, on le retrouve au moment du baptême de Jésus. Dieu dit, là il dira, c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon approbation, toute mon affection, tout mon amour. Voilà. Ésaïe 42, verset 1, Jésus est présenté comme le serviteur, celui qui vient pour servir. Et puis il y a bien sûr ce grand chapitre 53 d'Ésaïe, qui en fait commence déjà au chapitre 52, verset 13. Regardez 52, verset 13 d'Ésaïe, 52, 13, qui introduit ce grand chapitre 53 avec cette même parole finalement. Mon serviteur, voilà, mon serviteur prospérera ou réussira, il grandira et gagnera en importance, il sera haut placé. Et puis ça continue tout le chapitre 53 hein, qui décrit Jésus, serviteur, qui vient pour servir et donner sa vie. Là, voilà, c'est le serviteur qui donne sa vie. Description des souffrances de Christ, de son sacrifice, jusqu'à ce verset 11 du même chapitre qui nous dit « Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait par sa connaissance. Mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. » C'est lui qui portera leur faute. Qui d'autre que Jésus, hein, serviteur qui a justifié ceux qui croyaient en lui et qui a porté leur faute. Donc, Jésus, serviteur, Jésus, sacrifice aussi en même temps. Et donc, dans l'évangile de Marc, on va voir que Jésus va être obligé d'enseigner cela aux disciples. Regardez, par exemple, au chapitre 9 de Marc, on va aller dans l'évangile de Marc, 33 à 37. Marc 9, 33 à 37. Les disciples se posent la question fondamentale et très importante, n'est-ce pas ? Qui est le plus grand parmi nous ? Qui est le plus grand parmi nous dans l'Église ? Qui est le plus important ? Voilà, c'était leur question. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'ils furent dans la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Donc ils se sentaient un peu mal, quand même, de dire « Voilà, on a discuté pour savoir qui était numéro 2, numéro 1 même, le plus grand. » Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et après l'avoir pris dans ses bras, il leur dit, « Celui qui accueille en mon nom de ses petits-enfants, c'est moi-même qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé, donc mon Père. » Jésus leur enseigne que celui qui sert les autres est le plus grand aux yeux de Dieu. Il est le premier aux yeux de Dieu. Au musée du Louvre, il y a un tableau d'un peintre espagnol qui s'appelle Murillo, qui s'appelle « La cuisine des anges ». Et ce tableau représente des nobles qui entrent dans la cuisine d'un grand château, n'est-ce pas, où il y a beaucoup de serviteurs, de cuisiniers, de cuisinières qui travaillent. Ces nobles entrent dans la cuisine et stupéfaction, ils se rendent compte que tout, les cuisiniers, les cuisinières, tous les serviteurs, toutes les servantes, en fait, sont des anges. Ce sont des anges. La leçon que veut donner ce peintre, c'est que, voilà, ceux qui servent sont honorés aux yeux de Dieu, sont honorables, ont plus de valeur que les nobles. Les nobles qui arrivent, voilà, nous sommes là pour être servis. Mais ceux qui les servent sont plus grands qu'eux. Pensons-y, hein, quand nous avons des repas d'église, nos sœurs, quelques frères aussi, par le repas, ce sont peut-être des anges. En tout cas, voilà, ils sont grands aux yeux du Seigneur. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, dira Jésus dans l'évangile de Matthieu aussi. Et regardez ce verset aussi qui était intéressant dans Luc 23, 27, hein, ce sont des passages parallèles à ce récit qu'on a lu dans Marc. Luc 23, 27, Jésus leur dit, en effet, qui est le plus grand ? On y revient à cette histoire. Est-ce que c'est celui qui est à table, le noble, là, en l'occurrence ? Est-ce que c'est celui qui est à table ? Ou est-ce que c'est celui qui sert ? Ah oui, c'est vrai qu'aux yeux du monde, celui qui est le plus grand, c'est celui qui est à table. Et moi, cependant, dit Jésus, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. C'est lui qui devrait être servi. C'est lui le roi. C'est lui qui est le Fils de Dieu. Et pourtant, le voilà qui sert les autres. C'est lui qui se mettra à genoux pour laver les pieds de ses disciples. Est-ce que nous serions prêts à faire ça aujourd'hui ? Il y a des églises qui le pratiquent, hein, on appelle le lavement des pieds. Hein. Ça demande de l'humilité, hein, de faire cela. Jésus l'a fait pour ses disciples. Philippiens 2, 3 et 4, versets bien connus qu'on a lu récemment. Philippiens 2, 3 et 4, même message. « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Ceux qui servent, dans l'Église par exemple, sont plus grands. Ils doivent être plus grands à nos yeux. Si quelqu'un veut être le premier, a dit Jésus, il sera le dernier et le serviteur de tous. Serviteur de tous. J'ai toujours exhorté les chrétiens à servir, à s'investir. C'est vrai que ça n'a pas toujours marché, hein, comme espéré. C'est le risque aussi de déléguer ou de faire servir, de vouloir mettre à l'œuvre. C'est un peu comme un artisan, vous savez, un artisan qui a appris à développer un savoir-faire et qui veut le transmettre à un apprenti. Finalement, alors évidemment, il y a des risques, hein, risques de maladresse, d'échecs, d'erreurs, mais aussi de belles réussites. Jésus-Christ encourage au service en le pratiquant lui-même le premier, en donnant l'exemple. Il a dit, le Fils de l'homme est venu pour servir, pour servir. Revenons à Marc, chapitre 10, parce que ce n'est pas fini, les disciples, ils n'ont pas encore compris la leçon. Chapitre 9, on a vu, ils cherchaient à savoir qui était le premier. Chapitre 10, ils se sont dit, bon, on ne peut pas être premier, c'est sûr, mais on peut être au deuxième ou au troisième, hein, quand même. Regardez, chapitre 10, maintenant, au verset 35 à 44. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demandons. » Déjà, la façon de prier, hein. « Seigneur, je veux te demander que tu fasses pour moi ce que je vais te demander. Hein. Je te demande, fais ce que tu te demandes. Hein. » Voilà, hein, c'est déjà très prétentieux de s'approcher du Seigneur comme ça. Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. » Alors, dans le passage, dans notre évangile, c'est intéressant, dans l'évangile de Matthieu, en fait, c'est la maman qui fait la demande, c'est la mère. Hein. Donc, on peut mettre les deux passages ensemble. Hein. Elle a remarqué tellement que ses deux fils étaient quand même dans les favoris de Jésus. Hein, et qu'ils étaient là, il y avait Pierre, Jacques et Jean. Hein. Jacques et Jean, ils étaient toujours avec Jésus. Par exemple, quand Jésus a ressuscité la fille de Jaïrus, quand Jésus est monté sur la montagne, il y avait ses trois disciples. Donc, la mère, vous savez, il y a du ressenti, hein, de l'intuition. Elle dit, oui, je sens bien. Je sens bien mes fils 2 et 3. Hein. Bon, Pierre sera peut-être premier après le Seigneur, mais bon, il peut être 2 et 3. Hein. Ou alors, c'est le Seigneur qui sera premier. Mes fils peuvent être 2e et 3e. Et puis, Pierre, hein, il prendra la 4e place. Voilà. Cet esprit de compétition, cet esprit de se mettre en avant. Hein. Donc elle essaie de placer ses fils. Mais évidemment, ni elle ni ses fils n'ont compris le message d'humilité de Jésus. Jésus leur dit, hein, il répond, si on revient à Marc, verset 38. Jésus leur répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ?» Donc là, il parle de la croix, de sa mort. « Nous le pouvons, lui dirent-ils. » Jésus leur répondit, « Vous boirez en effet la coupe que je vais boire, et vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé. » Ces deux disciples, voilà, connaîtront aussi la souffrance. Hein. « Mais quant à être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux pour qui cela est préparé. » Après avoir entendu cela, les 10 autres commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux que l'on considère comme les chefs des nations dominent sur elles et que leurs grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce n'est pas le cas au milieu de vous. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. » En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Voilà ce verset que j'ai cité tout à l'heure. Il arrive à la fin de tout cela, de tout ce passage. Hein. Il sera serviteur, il sera même esclave de tous. Le mot est fort. Hein. Le mot est fort. Hein. Il ne faut savoir qu'en grec, doulos, c'est un terme qui désigne à la fois serviteur et esclave. Hein. Et Jésus, ici, là, il montre voilà, l'intensité du service jusqu'au bout, hein, d'aller jusqu'au bout. Le Fils de l'homme est venu pour servir, mais aussi pour donner sa vie en rançon, pour beaucoup, en sacrifice. Servir, c'est aussi donner sa vie pour les autres. Alors, il ne s'agit pas pour nous de mourir pour les autres, forcément, mais de vivre et de servir, hein, de renoncer à soi-même et de se consacrer pour les frères et sœurs, pour nos semblables, notre famille, nos proches qui ne connaissent pas le Seigneur. Et Jésus, lui, bien sûr, donner sa vie, c'est vraiment physique, il va mourir, hein, il va aller jusqu'à la croix. Oh, que Dieu nous donne un tel cœur, un cœur de serviteur, un cœur de servante, qui se donne pour le Seigneur et pour les autres. Donner sa vie en rançon pour beaucoup ou pour plusieurs. Le mot rançon vient du latin, ça vient du mot rédemption, rachat. Il s'est donné pour la rédemption, pour le rachat de beaucoup. Mais dans le grec, c'est un autre mot qui veut dire délivrer ou délier, n'est-ce pas ? Il y a vraiment l'idée d'être libéré de nos péchés, de la perdition par le sacrifice de Jésus-Christ. Donner sa vie en rançon pour beaucoup ou pour plusieurs. Vous savez, si vous croyez, vous serez libéré. Délivré, vous pouvez chanter libéré, délivré, hein, comme. Vous voyez ce que je veux dire. Hein. Là, vous pouvez le chanter, mais libéré, délivré du péché, de la perdition. Plusieurs. Alors, Christ, il est mort pour tous. Croyons que Christ est mort pour tous. Mais que son sacrifice n'est efficace que pour ceux qui croient, bien sûr. C'est un petit peu comme dans la rue, quand nous évangélisons, nous donnons des traités à tout le monde. On traite à tout le monde, distribue, on évangélise, on essaie de parler au Seigneur. Tout le monde peut recevoir le traité, peut recevoir une Bible, peut croire et être sauvé. Mais on vit bien que tous ne reçoivent pas. Il y en a qui refusent, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas la parole de Dieu, ils ne veulent pas l'évangile, n'est-ce pas ? Mais ceux qui le reçoivent et qui croient, ce sont là, c'est plusieurs, c'est les beaucoup dont il est parlé ici. Alors pour revenir au taureau maintenant, ou au bœuf, cet animal évoque la puissance, hein, la force. Vous connaissez la puissance d'un taureau, on le voit dans les corridas ou d'autres courses, hein, ou dans... Allez, en Camargue, vous verrez ces animaux, ne vous aventurez pas trop à vous approcher d'eux. Hein, ils sont aussi sauvages parfois. Mais voilà, donc, la force. Jésus est fort. Jésus est puissant. Hein. Jésus est efficace, toujours actif. Ce qui est frappant quand on lit justement l'évangile de Marc, hein, c'est un évangile très dynamique, l'évangile de Marc. C'est le plus court, il n'y a que 16 chapitres. Regardez chapitre 1er, par exemple, on va voir quelques exemples de la vie de Jésus, chapitre 1er. On voit que Jésus a une vie, des journées pleines. Si vous avez des journées pleines et remplies, eh bien Jésus aussi, Jésus était très actif. Chapitre 1, verset 32, on commence le soir, si vous voulez, parce que pour les Juifs, hein, c'est comme ça que ça marche, du soir. La journée commence le soir, finalement, la nuit, puis... Il y a eu un soir, il y a eu un matin. Et donc le soir, après le coucher du soleil, 1:32, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de personnes qui souffraient de diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons, etc. Donc le soir, voilà, le soleil est couché. Jésus est à l'œuvre. Il travaille la nuit. Regardez verset 35. Vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. Le soir, il se couche, il travaille tard. Le matin, il commence tôt. Et si vous continuez, vous verrez toute la journée, il n'arrête pas. Jésus est à l'œuvre comme un taureau, comme un bœuf. Hein, fort, efficace. L'évangile de Marc rapporte d'ailleurs très peu de discours de Jésus. L'évangile de Marc se concentre plus sur les actes de Jésus, les miracles. 18 miracles de Jésus sont rapportés dans l'évangile de Marc. On dit qu'il aurait été écrit plutôt pour les Romains. Chaque évangile aurait un but spécifique. Hein. Matthieu serait plutôt pour les Juifs, parce qu'il parle beaucoup du Messie, du roi, et de toutes les prophéties qui sont accomplies. Hein. Le verset clé, c'était « afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes », alors que Marc, voilà, c'est le serviteur, celui qui œuvre, qui travaille. Pourquoi les Romains ? Eh bien, parce que les Romains étaient portés plus à l'action qu'au discours. Hein. C'était un peuple toujours actif, dynamique. Et le mot-clé, on dit souvent de Marc, qui revient 40 fois dans l'Évangile, c'est quoi ? Quel est le mot-clé de Marc ? Juste un mot. Aussitôt. 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 On pourrait le trouver dans plusieurs passages. Hein. Aussitôt, aussitôt. Hein. Ça revient 40 fois, donc pour dire, voilà, Jésus, toujours à l'œuvre, toujours actif. Mais tout en étant super occupé, il restait disponible quand il était sollicité. Il était toujours à l'écoute, il prenait le temps. Regardez un exemple au chapitre 5 et au verset 21. Jésus regagna en barque l'autre rive où une grande foule se rassembla autour de lui. Il était au bord du lac. Donc là, voilà, il vient de faire une délivrance, un miracle. Il traverse le lac, il arrive, il a une grande foule qui l'attend, là, qui attend ses messages, son enseignement, ses délivrances. Alors, verset 22-21, des chefs de la synagogue, on en a parlé, du nom de Jaïrus. Hein, lorsqu'il aperçut Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia avec instance. « Ma petite fille est sur le point de mourir. Viens, pose les mains sur elle, afin qu'elle soit sauvée et elle vivra. » Jésus s'en alla avec lui. Donc Jésus, voilà, il a une grande foule qui est là. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il dit, écoute, bon, Jaïrus, écoute, j'ai une grande foule qui m'attend, là, j'ai pas le temps, hein. On va prendre rendez-vous, si tu veux. Non, Jésus, il part, il laisse la foule, et il va suivre un homme pour une petite fille. Voilà, Seigneur, vous pouvez le prier, il s'intéressera toujours à vous, à vos prières. Le Seigneur, il est disponible. Mais ce n'est pas fini, parce que là, au moment où il commence à suivre cet homme, verset 24, Jésus en alla avec lui, une grande foule le suivait et le pressait de tous côtés. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait, même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta. Elle sentit que dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements ? Vous voyez donc la sensibilité de Jésus aussi. Il est sensible à une personne qui le touche avec foi. Parce qu'il y avait plein de personnes qui le touchaient. Mais une avec foi. Et là, Jésus, voilà, il va amener cette femme à se confesser, hein, ce qu'elle a fait. Il va prendre le temps de lui dire au verset 34, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix et sois guérie de ton mal. » Et puis là, il parlait encore quand des gens arrivèrent de chez le chef de la synagogue, Jaïrus, et lui dirent, « Ta fille est morte. » C'est trop tard, c'est beaucoup de pression, on pourrait dire, sur Jésus, là, hein. Mais 36, dès qu'il entendit cette parole, Jésus dit au chef de la synagogue, « N'aie pas peur, crois seulement. » Et c'est là qu'il va entrer dans la chambre avec Pierre, Jacques et Jean. Il va prier et il va prendre verset 41 par la main la petite fille, lui dire « Talita kumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher car elle avait 12 ans. Voilà. Ils furent aussitôt encore, remplis d'un grand étonnement. Donc le Seigneur, voilà, actif, toujours à l'œuvre, sollicité de partout, mais il prend le temps pour une personne ici, pour une personne là. Après, il s'adresse à la foule. C'est pour cela qu'on peut toujours prier le Seigneur, il est toujours à notre écoute, hein, obéissant, soumis à son Père. Vous savez que les animaux, quand on labourait avec les animaux, ou on travaillait avec les animaux, il fallait qu'ils soient obéissants. Hein. Eh bien, Jésus s'est rendu obéissant comme un bœuf, comme un veau, comme un taureau, On va relire ce beau texte dans Philippiens 2, 5 à 8. On a lu tout à l'heure, hein, le début, les versets 3 et 4, sur l'humilité, de regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes, de vouloir avoir l'attitude de Jésus-Christ. Regardez ce qu'il dit, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, qui est roi, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Il est Dieu, comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. Voilà. Il s'est fait serviteur en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. L'obéissance, l'humilité du Seigneur, le service. Le Seigneur avait aussi un sentiment d'urgence, hein, juste ce verset que je mentionne, on ne va pas le chercher, c'est Jean 9, 4 qui dit « Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Il avait un sentiment d'urgence, c'est pour ça qu'il était très très actif, parce qu'il avait 3 ans devant lui. 3 ans, c'est court, hein, peu de choses dans une vie. Un ministère plein, rempli, nous ne savons pas le temps que nous avons devant nous. Hein. Donc remplissez vos journées pour servir le Seigneur. C'est aujourd'hui qu'on peut commencer à servir. Soyez, comme dit Paul aux Galates, soyez par amour serviteurs les uns des autres. Aimez-vous les uns les autres, mais aussi servez-vous les uns les autres. Soyez serviteurs les uns des autres. Et j'aimerais honorer et remercier, le Seigneur le fera aussi, hein, remercier ceux et celles qui servent dans l'Église et qu'on ne voit pas forcément se mettre en avant. Vous savez, il y a des services dans l'Église qui sont discrets. Par exemple, le ménage, vous ne le voyez pas, le ménage, parce que vous n'êtes pas là quand ça se fait, mais quand vous arrivez, vous voyez que c'est propre, que c'est rangé. Voilà. Merci. Merci aux sœurs qui font le ménage. La déco, c'est pareil. La déco, vous arrivez, ah, c'est joli, c'est bien. Hein, c'est... Vous n'étiez pas là pour forcément pour voir le travail de préparation de la déco. Hein. Merci aussi aux sœurs qui font la décoration. Peut-être qu'il y a aussi des hommes, d'ailleurs. C'est... Et puis, voilà, on a parlé des enfants, là. Vous êtes ici, vous écoutez le message, mais vous savez que pendant ce temps, il y a un travail d'enseignement qui se fait dans la pièce à côté pour les enfants. Et c'est tout un travail de préparation, hein, que d'enseigner les enfants, hein, que ce soit le dimanche ou le samedi quand il y a des clubs d'évangélisation. Voilà, c'est aussi un travail qui est caché à nos yeux, on ne le voit pas forcément. On en voit les effets dans la vie des enfants, gloire à Dieu. L'évangélisation aussi, on en a parlé, hein. On en parle, on évangélise le vendredi, le samedi, mais vous ne savez pas forcément qui le fait ou comment ça se passe. Parfois vous avez des retours, mais voilà, ça aussi c'est un travail qui peut être caché aux yeux. Un service pour le Seigneur, des équipes qui sont dans la rue. D'ailleurs, on va sortir prochainement, peut-être samedi prochain ou le samedi suivant, pour aller chanter dans la rue des chants de Noël et offrir des Bibles encore, comme chaque année. Voilà. La Bible dit, ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru. Et la réunion de prière, les temps de prière, c'est pareil, c'est la prière, hein, il n'y a pas la foule à la prière, hein, c'est quelque chose que vous ne voyez même pas, vous ne remarquez même pas qu'il y a des gens qui prient pour vous, parce que ça se passe dans la discrétion, avant le culte ou à d'autres moments. Mais peut-être que vous êtes là ce matin parce que des chrétiens ont prié pour vous. Et tiens, c'est bizarre, ce matin je me suis réveillé, j'étais bien là, et puis tout s'est passé bien, il n'y a pas eu de bouchon, il n'y a pas eu de retard, j'ai trouvé une place pour me garer. Il y a des gens qui ont prié pour vous, voilà, le Seigneur répond. Parce qu'il y a des chrétiens qui ont appris à servir, voilà, comme le Seigneur, serviteur. Prions. Notre Dieu, merci pour ce bel exemple de Jésus, ton Fils qui s'est fait serviteur pour nous sauver. Donne-nous un tel cœur aussi, Seigneur, un cœur qui aime servir les autres, qui aime se donner, Seigneur, pour ta gloire. Seigneur, merci pour ton sacrifice. Merci, Seigneur, de aussi attirer à toi ce matin ceux qui ne seraient pas encore sauvés, que dans ta grâce tu puisses parler au cœur, tu puisses montrer que le salut est simple parce que tu as fait le plus difficile, tu as tout accompli, c'est toi qui as tout payé. Seigneur, je te prie pour que s'il y avait quelqu'un ici ce matin qui n'était pas sauvé, eh bien qu'il puisse mettre sa main dans la tienne et dire, Seigneur, je crois ce matin. Je reçois ton pardon, je reçois ton salut, Seigneur. Donne-moi ta vie éternelle, donne-moi cette grâce, Seigneur, de t'appartenir. Faites-le, priez le Seigneur, il est disponible, il vous écoute, il n'est jamais trop occupé. Le Seigneur est fidèle. Notre Dieu, nous te bénissons encore pour ton amour envers nous, parce que c'est toi qui agis dans nos vies, qui nous change, qui nous transforme. Et que ce temps de Noël, en effet, soit un temps où nous puissions briller, Seigneur, pour, comme des lumières pour te faire connaître. Comme ces guirlandes qui brillent, qui clignotent, Seigneur, et bien que nous puissions aussi clignoter, briller, que les gens nous remarquent et se disent, tiens, il y a quelque chose de différent dans ces vies-là, Seigneur. T'en prions par Jésus-Christ. Amen. Amen.